Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, en conversation téléphonique, suis-je avec Olivier Massicot, chargé de com au Zamanin. Cet agrocentre flanqué de structures d'accueil et de formation et d'une école primaire que Olivier va se faire un plaisir de nous représenter dans quelques instants, qui est située à La Roche-sur-Grane. Et le 29 juin, les Zamanins organisent pour la peut-être je ne sais combienième fois consécutive la fête des Zamanins pour la terre et l'humanisme. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que tu voudrais tout simplement recommencer par le début, c'est-à-dire présenter le projet des Zamanins? Qu'est-ce que c'était à l'origine? Qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-ce qu'il en est?
D'accord. Donc, les Zamanins, c'est un centre agroécologique qui se trouve à La Roche-sur-Grane, donc qui regroupe, en fait, sur une ferme de 55 hectares, donc une ferme en production agricole, agroécologique, qui est en polyculture élevage, un centre d'accueil et une école qui travaille sur un projet pédagogique et dit coopératif. Voilà, donc les Zamanins, en fait, ça a été cofondé par Pierre Rabhi, Michel Valentin, et par la suite est venue s'intégrer Isabelle Peloux, qui a pris en charge l'école. L'idée des Zamanins, c'était de répondre à deux questions fortes, en fait, qui sont quels enfants laisserons-nous à la planète et quelle planète laisserons-nous à nos enfants. Voilà, donc c'est un lieu qui parle énormément d'autonomie, différentes autonomies, en fait. C'est un lieu qui tente, on va dire, d'expérimenter des autonomies avec ses forces et ses faiblesses, donc autonomie alimentaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange aux Zamanins, c'est en grande, très grande partie, quasi plus de 80% produit sur place, donc dans nos jardins, issus des animaux qu'on élève, enfin, voilà, tout ça. L'autonomie au niveau de l'habitat, tous les bâtiments sont éco- et autoconstruits avec un principe d'architecture de cueillette. L'autonomie énergétique avec de l'éolienne et du thermique solaire, voilà, des chaudières à bois fragmentées. Et puis on parle beaucoup aussi aux Zamanins d'autonomie économique, c'est-à-dire de replacer un projet écologique dans une notion d'économie. Voilà. Et d'une relation, beaucoup de coopération. Enfin, aux Zamanins, c'est vraiment un lieu d'expérimentation de la coopération. Donc en partant du constat que coopérer, c'est pas quelque chose qui se décrète, mais quelque chose qui s'apprend. Donc c'est pour ça que c'est ce qui a été mis en place à l'école du Colibri, pour enseigner aux enfants à faire ensemble. Et puis nous, du coup, on est une SCOP, les adultes, et on essaie de travailler sur des modes de gouvernance plus écologiques. Voilà, donc ça, c'est globalement la présentation du projet des Zamanins. Bon, ce que j'aime bien dire, c'est que les Zamanins, c'est un projet, en fait, qui répond à un mouvement de société là qui est présent, c'est-à-dire avec de plus en plus de gens qui se posent des questions et qui sont en transition, qui sont en recherche d'autonomie, et que les Zamanins, en fait, c'est un projet de transition, en transition, dans un moment de transition de société. Donc c'est vraiment un projet qui est apprenant, qui a ses forces et ses faiblesses, qui réussit des choses et qui a des grandes difficultés sur d'autres. Enfin, c'est un lieu vivant, en fait. Donc ça, c'est la présentation globale des Zamanins. Nous, c'est vrai qu'en fait, depuis, il est arrivé en fait au projet quelque chose d'assez marquant, en fait, l'année dernière, enfin, de très marquant, voire même de traumatisant, c'est le décès de Michel Valentin, qui était l'un des cofondateurs, et puis surtout, on va dire, le dynamiseur en puissance du projet. Et donc, du coup, en fait, l'année dernière, il y a eu un gros travail interne pour essayer de préserver ce projet suite au décès de son fondateur. Et du coup, en fait, il y a eu un travail d'équipe assez fascinant et assez beau pendant une année pour soutenir ce projet qui, à la fois, avait un enjeu économique, mais pas que, en fait, un enjeu agricole, un enjeu d'éducation, de transmission, d'accueil, ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, pendant une année là, on a énormément travaillé sur une gouvernance partagée, c'est-à-dire essayer au maximum, en fait, de diviser le pouvoir entre nous et d'être sur une responsabilité individuelle et collective. Donc voilà, une sacrée aventure. On est très heureux parce qu'on a pu passer l'hiver économiquement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les Zamanins, c'est une association, une SCOP, hein. Donc la SCOP, elle est assez récente, elle a 4 ans et demi. Donc comme toute entreprise, il lui faut un peu de temps pour trouver son équilibre. Et donc là, en fait, on y est. Donc ce qui crée beaucoup d'air et de calme, on va dire, dans la structure. Et puis cette année, en fait, on a vraiment lancé tout un énorme projet, un audit sur la partie agricole des Zamanins. sur la ferme en polyculture élevage, avec le souhait en fait vraiment de placer les Amanins dans une ambition, alors quand je dis ambition, c'est vraiment dans le bon sens du terme, dans un challenge agroécologique, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, là, Stéphane Le Foll, le ministre actuel, a lancé toute une dynamique de reconnaissance de l'agroécologie. Donc avec les bons et les mauvais côtés, les bons côtés, c'est que du coup, en fait, ça va faire une promotion d'un mode agricole, en fait, qui peut, on le dit, nourrir la planète. Et ceci en préservant à la fois la terre, enfin l'humus, le sol vivant, et en même temps en prenant conscience qu'il y a tout un enjeu social autour de l'agriculture. Donc ça, c'est le bon côté. Puis le mauvais côté, c'est que globalement, quand tu as un organe politique, l'État lance quelque chose dans ce sens-là, ça peut être la panacée, ça peut être tout et n'importe quoi, et donc galvauder le terme d'agroécologie. Donc on est vraiment sur un travail de fond, sur essayer de replacer des techniques agricoles agroécologiques de pointe aux Amanins, avec un objectif de production pour qu'on puisse être une ferme témoin de quelque chose qui se passe dans l'agroécologie, qui puisse aider des paysans à s'orienter vers ce mode de production. Voilà, donc ça c'est la vie des Amanins, très globalement, parce que c'est un projet hyper complexe, hein, les Amanins, mais très riche. On reçoit de plus en plus de personnes, c'est vrai qu'on a cette chance-là. L'année dernière, on a accueilli à peu près 6000 personnes et fait à peu près 23 000 repas sur l'année. Donc on a une reconnaissance qui est en train de monter, donc qui est très liée aussi à la reconnaissance d'homme public de Pierre Rabhi, hein, qui a eu la sortie du documentaire, les médias en fait s'en sont emparés et ont fait des retours très positifs. Donc Pierre est en train de devenir un homme public et donc peut passer son message à un niveau qu'il attendait de le faire. Et puis le mouvement des Colibris aussi, qui est très actif en fait, hein, qui met en réseau beaucoup d'acteurs du territoire, des citoyens, la société civile. J'ai envie de dire que les Amanins, ça fait partie d'un tout là qui est en mouvement, et ce qui est pour nous une superbe opportunité, parce que c'est vraiment un lieu qui existe parce qu'il répond à un besoin citoyen. Voilà.
Tu parlais d'équilibre économique suite au décès de Michel Valentin. Est-ce que justement vous avez trouvé des solutions et vous vous assumez financièrement? Il n'y a personne qui passe derrière pour éponger les déficits justement?
Alors, depuis cette année, non. La réalité, c'était pas tant éponger les déficits par rapport, on va dire, à la SCOP. C'était plus qu'en fait, n'importe quelle entreprise, quand elle se lance, il lui faut un temps pour se positionner, pour comprendre en fait quelles sont les personnes qui sont intéressées par ce qu'elles proposent. Donc en général, c'est pour les entreprises entre 3 et 5 ans hein, pour se positionner vraiment financièrement. Donc on prend des prêts, ce genre de choses. Donc en fait, Michel Valentin, il continuait à prêter, on va dire, à la SCOP pour qu'elle puisse s'équilibrer et affirmer, on va dire, sa position de centre de transmission sur l'agroécologie, et puis que le public, en fait, qui pouvait être intéressé, comprenne, en fait, que ce lieu existait. Donc c'est vrai qu'encore jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire 2012, en fait, Michel continuait à aider la structure, la SCOP, enfin, voilà, à la soutenir financièrement, mais c'est des prêts, donc c'était sous remboursement, c'est pas des dons, hein. Voilà, et donc c'est vrai que cette année, en fait, on a pu un peu plus accentuer la communication du lieu, mais je crois qu'aussi il y a la reconnaissance d'un travail de 4 ans, en fait, hein, qui se mettait en place, et puis on a pu faire d'autres partenariats avec l'accueil de structures des types l'Université du Nou, l'avenue de l'Holacratie aux Amanins, Transition Network, enfin, voilà, beaucoup de structures très liées à la transition, c'est vraiment positionnement aux Amanins. Et puis l'accueil aussi beaucoup de séminaires, voilà, d'AG, d'associations, de séminaires d'entreprises, de plus en plus, donc qui apportent, on va dire, un soutien, enfin, un apport financier à la structure et donc dans son équilibre économique. Donc c'est vrai que depuis cette année, en fait, la structure n'a eu besoin d'aucun apport extérieur autre que finalement la valorisation de son outil de travail.
Ah bah c'est bien ça. Donc vous commencez à voler de vos propres ailes.
Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, c'était le challenge, on va dire, inévitable. C'est-à-dire, le décès de Michel, ça nous mettait face aussi à ça, face au fait que soit les Amanins pouvaient continuer dans sa forme actuelle, parce qu'il y avait un boulot, parce qu'il y avait une reconnaissance et qu'on arrivait à cet équilibre, soit, en fait, les Amanins auraient changé de forme. Nous, on souhaitait, par hommage à Michel, et puis pour continuer et prouver que c'était possible, continuer dans cette voie-là, et je trouve que toute l'équipe des Amanins a œuvré d'une manière assez belle, voilà, et je trouve qu'il y a une reconnaissance aussi du public qui est vraiment chouette, quoi. Enfin, on a des super retours, c'est pas... Il y a une sorte de fierté, mais qui n'est pas une fierté de dire on est génial, mais c'est plus de dire on a une super reconnaissance de la part du public qui vient aux Amalins. Le public est très touché par ce qui s'y passe, on va dire, en termes d'humain, en termes d'être. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que les gens viennent là et se rendent compte que c'est un projet qui a ses forces et ses faiblesses, mais nous, voilà, on en parle, et que ça leur donne espoir, en fait, pour avancer, qu'ils sont bien accueillis, qu'ils mangent bien et que les formations ont du sens. Voilà, on va dire qu'il y a une reconnaissance qui est là et qui est vraiment forte, quoi, qui est chaleureuse et qui donne de l'énergie à l'équipe, on va dire, pour avancer.
Alors, ça fait deux fois que tu emploies le terme de l'équipe des Amalins. Est-ce que tu pourrais nous préciser combien de personnes sont concernées par ce vocable? Combien de personnes travaillent, alors plus ou moins à plein temps ou plus ou moins bénévolement? Je ne sais pas comment vous organisez pour faire en sorte que les Amalins sont ce qu'ils sont, et ceci dans les différents départements, que ce soit dans l'accueil, dans la ferme et puis à l'école aussi. Enfin, il y a combien de personnes qui travaillent aux Amalins?
Alors, on est 12 personnes salariées, on va dire. Voilà. Donc 12 dans deux structures, la SCOP et l'association. L'association, en fait, elle gère tout ce qui est partie école, voilà, et la partie pédagogique et l'accueil des classes découvertes. On reçoit beaucoup de classes découvertes sur plusieurs jours ou à la journée, donc des écoles du local ou des écoles de l'ordre sur le territoire national. Voilà, donc là, c'est deux personnes, enfin maintenant trois personnes, mais pas en temps plein, les trois. Hein. Donc il y a la directrice de l'école, la personne qui s'occupe des classes découvertes, donc Élise, et Laurie, en fait, qui est plutôt dans la gestion de la structure. Voilà, donc ça, c'est pour la partie association. Et puis après, donc il y a la SCOP, donc qui regroupe 9 personnes. Donc il y a 3 personnes et demie sur la partie ferme, la partie agricole. Il doit y avoir 3 personnes sur la partie accueil, 2 personnes dans la partie administrative, et puis 2 ou 3 personnes, dans 3 personnes d'ailleurs, sur la partie cuisine, et une personne dans la partie gestion du lieu, mais le côté technique, on va dire, du lieu. Voilà. La construction, réparation, ce genre de choses. L'entretien du lieu. Voilà, donc ça fait une équipe. Donc ça, c'est, on va dire, les permanents. Et puis à côté de ça, les amalins, c'est 3 woofers en constance, des stagiaires. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc j'ai envie de dire que c'est une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes sur site à travailler en moyenne.
Donc les choses avancent. Est-ce que vous avez des projets particuliers qui s'annoncent ou est-ce que vous continuez à amplifier ce qui a déjà été fait?
Alors il y a un peu deux optiques, hein. C'est-à-dire que suite au décès de Michel, quand même, il y a eu un constat qu'on a fait tous ensemble, c'était qu'il était capital pour les Amalins qu'on continue à entreprendre, à éco-entreprendre. Voilà, pas dans une logique de faire plus, toujours plus et tout ça, mais de continuer en fait à faire vivre cette énergie de création qui pouvait y avoir aux Amalins liée à Michel, mais liée aussi aux autres personnes qui ont fondé ce projet ou qui l'ont aidé à se structurer. Donc en fait, on essaie cette année vraiment déjà de capitaliser sur 3 ans d'expérience d'accueil. Voilà, donc il y a un bilan qui a été fait sur ça pour essayer d'optimiser encore plus et d'aller un peu plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a un positionnement qui s'affirme de lui-même, qui est celui vraiment d'un lieu qui accueille la transition. Voilà, parmi d'autres, hein, lieux, hein, pas que les Amalins, mais donc qui accueille des transmissions très liées à la transition que vit notre société. Il y a aussi beaucoup de demandes sur la partie éducation. Voilà, avec une reconnaissance très forte de l'école et du travail mené par Isabelle. Des stages qui se remplissent mais à une vitesse incroyable, de plus en plus de structures externes qui organisent leurs stages aux Amalins. Là, il y a le mouvement de la communication non violente qui fait 2 stages sur l'éducation. Il y a l'éducation émotionnelle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis à côté, j'ai dit, il y a un projet fort sur la partie agricole, donc vraiment avec le souhait de se positionner et de montrer que l'agroécologie c'est possible, donc avec un audit participatif en interne, donc il y a 3 paysans agriculteurs, on va dire conseillers qui nous accompagnent sur 6 mois là pour repositionner la structure. Donc c'est un gros investissement de la structure, ça, à laquelle on a fait un appel au projet bio, appel à projet BioVallée. Voilà. Et puis après, il y a toute une réflexion sur notre petite boutique, parce qu'on a un lieu de vente en fait, nous, hein, où on vend nos produits et quelques produits, on va dire, d'artisans et producteurs locaux. Enfin là, donc il y a une réflexion autour de ça. J'ai envie de dire que pour l'instant, en fait, quand même, le souhait de l'équipe des Amalins, c'est vraiment de continuer à se faire un équilibre pour qu'on se dise que la partie économique, en fait, c'est OK et qu'on puisse, nous, trouver un rythme, on va dire, plus équilibré pour nous dans notre travail quotidien. Voilà. Dans le sens où toujours, on parle beaucoup de changement de paradigme, à travers Pierre Ravi, et de transition, et que peut-être un des éléments fondamentaux pour nous aujourd'hui, c'est d'arrêter d'accélérer, quoi. Voilà, donc de se dire, voilà, on a quelque chose là, rien ne nous sert de continuer à croître, mais si ce n'est à bien faire ce qu'on fait déjà, puisqu'on a déjà un équilibre économique. Voilà.
Mais est-ce que tu sous-entendrais que vous travailliez trop, ou qu'il y aurait une pression sur les salariés, ou...
Non, alors il n'y a pas de pression sur les salariés. Hein, tout. Je trouve que maintenant, si tu veux, il y a quelque chose qui se joue, qui est que tout le monde a conscience en fait de la chance qu'il a d'œuvrer dans un projet comme celui-ci. Quand tu arrives aux Amalins, tu as quand même une vue incroyable, le lieu est beau, il y a de la nature partout, des personnes qui sont présentes et qui nous accompagnent ou qui viennent dans les formations sont vraiment des belles personnes, il y a beaucoup de bienveillance, hein, voilà. Donc il y a quand même une certaine chance. Donc on a tendance à donner, on va dire, dans ce type de projet un peu plus, puisqu'en fait on est nourri par ce qu'il nous apporte. Hein. On subit pas notre travail en fait aux Amalins. Il y a vraiment chacun est très heureux d'y venir. On a encore une réunion dernièrement, une plénière tous ensemble, où vraiment le constat il était global, hein, partagé par tous s'il y avait ce souhait. Par contre, c'est vrai qu'il y a dans nos structures, hein, il n'y a pas que les Amalins, je pense qu'il y a beaucoup de structures écologiques en fait qui sont là-dedans. C'est qu'il y a tellement ce souhait en fait de changer des choses qu'on a tendance à travailler beaucoup, à être des fois en fait soumis à une pression de travail forte, quoi, mais qu'on se met nous-mêmes. Voilà, donc là l'idée c'est plutôt nous d'essayer de réfléchir, hein, sur comment on aura toujours un grand engagement vis-à-vis de ce projet, mais comment finalement on arrive à un peu plus se préserver. C'est plutôt ça.
En souplesse.
Un peu plus de souplesse, oui, et accepter de se dire que c'est important aussi d'avoir du temps en extérieur, et puis de prendre soin de soi-même.
Ben oui, il faut commencer par là. Et je voudrais juste avoir quelques petites précisions sur les productions de la ferme, en fait. C'est du maraîchage, j'ai entendu parler qu'il y avait des animaux, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors je parlais d'autonomie alimentaire tout à l'heure. En fait, donc les Amalins, c'est une ferme en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il y a, du maraîchage, des grandes cultures céréalières et légumineuses, et un élevage. Donc l'élevage aujourd'hui, en fait, c'est 35 brebis, un cheptel de 35 brebis lacones, 2 vaches, une dizaine de cochons et une quarantaine de poules. Donc en fait, ces animaux nous permettent en fait d'être autonomes au niveau de l'apport laitier, et donc la transformation laitière, donc de faire notre fromage, nos yaourts, notre crème, notre beurre. Donc ça veut dire que quand on mange des yaourts aux Amalins, c'est des yaourts qui sont produits sur place. Voilà. Et puis en fait, ça nous permet aussi d'avoir un roulement en termes d'apport carné, voilà, de viande, avec une transformation aussi qu'on fait sur place. Sachant qu'aux Amalins, on mange très peu de viande, hein, c'est une fois par semaine, donc c'est assez exceptionnel. Et c'est toujours dans le cycle du vivant, c'est-à-dire que les cochons, par exemple, aux Amalins, ont un sens particulier, c'est qu'ils sont là, non pas pour faire de la viande, mais pour recycler les petits laits acides issus du lait, en fait, des brebis et des vaches, qui sont impropres à jeter dans la nature, parce qu'ils sont acides, donc ils ont tendance à stériliser les sols. Voilà, donc ça, c'est la partie, on va dire, élevage. Après, il y a 1,5 hectare de maraîchage, donc il nous permet d'avoir une diversité d'à peu près une quarantaine de légumes. Voilà, donc il tourne sur toute l'année. Donc il y a 20 hectares en grande culture, donc culture céréalière avec des semences de blé ancien, blé dur, avoine, orge. Voilà, donc de travailler là-dessus. Et on fait aussi des légumineuses, parce qu'on est sur une rotation en fait des grandes cultures, histoire de ne pas appauvrir le sol et de pouvoir lui apporter de l'azote, des engrais verts, ce genre de choses. Donc on a fait nos lentilles et nos pois chiches. Voilà, donc tout ça, en fait, ça fait que quand on vient manger aux Amalins, et tu parlais de l'école, par exemple, du Colibri, les enfants de l'école du Colibri, ils sont nourris avec ce qui est produit dans les jardins et dans l'élevage des Amalins. Voilà. Après, il faut se rendre compte que de quelque chose, c'est que on essaie d'avoir une autonomie alimentaire maximum. On n'est pas dans une autarcie alimentaire, c'est-à-dire que il y a certaines choses, parce qu'on a des habitudes culinaires, enfin plutôt, dans notre société, en fait, il y a certaines choses qu'on achète à l'extérieur, par exemple les huiles, puisqu'on ne fait pas nos huiles, les épices, le sel, ce genre de choses. Donc il y a des apports quand même qu'on prend à l'extérieur, mais c'est vrai que, on va dire, la base de l'alimentation, elle est produite sur place à près de 80-90%. Et là, en ce moment, par exemple, on est un peu moins que ce pourcentage, parce qu'il y a une saison qui est très complexe. Bon, on va aller prendre en circuit court. Donc on est avec Agricourt, par exemple, voilà, qui travaille avec nous sur des circuits courts pour nous alimenter quand en fait on a des difficultés. Parce que la réalité des Amalins, c'est qu'on fait 25 000 repas sur l'année, mais en fait on ne peut pas On va dire qu'il y a certains moments, on ne peut pas tout assumer avec notre production. Par exemple, en ce moment, là, aux Amanins, il va y avoir un forum sur la danse biodynamique. Ça va être 150 personnes sur 3 jours, donc à peu près par jour. On va essayer de les nourrir au maximum avec ce qu'on produit, mais ça va être très complexe. Donc, dans des moments comme ça, en fait, on a tendance en fait à aller acheter en extérieur, mais tout en sachant que nous, en fait, on s'est mis un objectif d'à peu près entre 60 et 80 personnes avec notre production à nourrir par jour, donc petit déjeuner, repas et dîner, et pour l'instant, on est à peu près à 35 personnes avec notre production. Donc, c'est-à-dire on a encore une capacité d'augmentation de notre production pour montrer qu'avec un territoire de, on va dire, 50 hectares, mais bon, en réalité, il y a 25 hectares en production, et ben en fait, la réalité, c'est qu'on peut nourrir peut-être 80 personnes. Voilà. Mais ça, c'est le chemin, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on veut tendre à faire pour prouver que l'agroécologie, ça peut nourrir, quoi.
Pour en venir sur l'école, le Colibri, y a-t-il un moyen d'évaluer l'efficacité de cette école en matière de résultats scolaires, voire d'équilibre des enfants? Est-ce que vous pouvez évaluer la portée de votre action en matière éducative sur ces enfants?
Bon, déjà, il y a différentes choses là, dans ce que tu évoques. La première, évaluer l'efficacité, c'est quand même quelque chose qui est complexe en termes d'éducation, sachant que là, c'est une école primaire, hein, enfin en classe unique. On va dire, s'il y avait des critères, c'est globalement, Isabelle, chaque année, elle prend 3 à 4 enfants en grande difficulté scolaire, c'est-à-dire qui ont été en échec complet, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus de place dans le scolaire public. Donc, du coup, elle a quand même une bonne réussite dans leur intégration, on va dire, dans la classe. Après, les enfants, en fait, qui sortent de l'école du Colibri n'ont jamais eu de difficulté, en fait, pour s'intégrer au collège public. L'idée de l'école, en fait, des Amanins, à la base, c'était pas de faire de l'alternative pour dire que l'éducation nationale, ça n'allait pas. C'était aussi beaucoup pour pouvoir avoir un espace pour expérimenter une autre pédagogie qui mettrait en avant, en fait, la coopération et le faire ensemble. Mais Isabelle, en fait, elle suit l'instruction publique, c'est-à-dire elle suit le programme de l'éducation nationale. C'est simplement dans la manière d'éduquer que ça va être différent. Voilà. Donc, du coup, on va dire que en termes de critères, l'école a une bonne réputation. Les enfants, par la suite, au collège, réussissent plutôt bien. Ils se retrouvent même souvent délégués de classe. Ils sont souvent en train d'essayer de gérer des conflits dans leur classe, ce genre de choses. Donc, je pense que ça fait des enfants qui ont une belle conscience, un épanouissement personnel et qui se rendent compte de ce que c'est que l'enjeu de la relation. Voilà, qui ont appris en fait à communiquer, quoi. Donc, de dire s'il y a des... Voilà, on n'a pas vraiment ces critères-là et c'est pas vraiment ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est qu'il y a un bien-être de la part des enfants qui sont à leur place. Voilà, donc, encore une fois, Isabelle, en fait, elle fait son possible. Elle-même le dit, elle doit faire des erreurs et d'un autre côté, elle continue à apprendre. Mais en même temps, globalement, en fait, les parents d'élèves sont très satisfaits parce que vivent leurs enfants. Voilà, il y a un taux d'intégration au collège qui est très intéressant, avec des enfants qui réussissent plutôt bien, donc j'ai envie de dire que c'est assez positif, hein, globalement, et puis il y a une reconnaissance quand même, là. On est suivi par Philippe Mérieux, donc qui est quand même un des grands pédagogues français, donc il peut être décrié aussi pour certaines choses, mais globalement qui s'intéresse à ça. Albert Jacquard, Edgar Morin sont venus dans cette école, ont regardé ce qu'ils faisaient, ont trouvé ça hyper intéressant. Donc bon, bah, j'ai envie de dire que c'est une école parmi d'autres, hein, qui expérimente quelque chose, et que globalement ça se passe plutôt bien et que on essaie de faire de notre possible pour que ça aille de mieux en mieux, quoi. Voilà. Mmh. On a un film là sur l'école par exemple qui c'est dingue, en fait il a une diffusion qui fonctionne énormément en fait et qui est sur du bouche à oreille. On avait édité 5000 films donc en fin 2011, on est milieu 2013, on en a vendu 5000. Et là, on a dû en rééditer parce qu'en fait, il y a une demande énorme. Je crois qu'en fait, ce qui plaît beaucoup dans l'école du Colibri et dans le travail qui a été mené par Isabelle, c'est vraiment le sens, en fait, d'enseigner aux enfants à communiquer et à faire ensemble, à coopérer. Et je crois que c'est là, en fait, la grande spécificité de cette école. Et c'est pour ça que ça résonne beaucoup, parce que c'est notre vrai besoin. Et c'est peut-être notre vrai handicap, on va dire, dans notre société. Et nous, en tant qu'adultes, c'est de faire avec les autres, quoi.
Je n'attendais pas que tu me sortes des abacs très précises de satisfaction des enfants. Voilà, tu m'as répondu tout à fait honnêtement. Apparemment, les enfants ont l'air plutôt épanouis et s'intègrent bien dans l'éducation nationale après les examens. Je sais que c'est difficile d'évaluer une méthode éducative. Bien, Olivier, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour d'une présentation globale des différentes activités des Amanins, tu es venu aussi annoncer cette fête des Amanins pour la Terre et l'humanisme qui va avoir lieu le 29 juin. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui attend les visiteurs à cette journée ?
Bon, donc du coup, nous, donc la fête des Amanins pour la Terre et l'humanisme, c'est un moment fort, on va dire, des Amanins. Donc c'est la troisième année qu'on le fait. La première année, c'était sur deux jours, on a été près de 2000 personnes. L'année dernière, en fait, il y a eu 950 personnes. Nous, en fait, l'objectif du nombre, c'est pas vraiment celui-là qui nous porte. Hein. Ce qui nous porte, c'était vraiment de se dire, bon ben, on parle d'écologie beaucoup et de transition, d'une société, en fait, qui va plutôt mal. Donc, le constat que ça va mal, en fait, a été fait. Mais nous, c'était important, en fait, qu'on puisse passer le message de se dire, et c'est important de célébrer cette écologie, c'est important de célébrer le fait qu'il y a de la joie aussi quand on parle de l'écologie. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça une fête, et c'est pour ça qu'on a essayé de l'organiser sous forme d'un moment festif, mais aussi un moment de réflexion. Donc du coup, voilà, nous c'est vraiment un moment qui nous tient à cœur aux Amanins, parce que c'est vraiment un moment où on peut se lâcher, on peut accueillir beaucoup de monde, et puis c'est un bon moment de partage, et c'est souvent en fait le témoignage qui nous est fait des personnes qui viennent, c'est qu'il y a une ambiance festive et les gens peuvent se rencontrer. Donc du coup, cette année, ça a d'autant plus d'importance pour nous que c'est aussi une manière pour nous de fêter le fait qu'on a tenu cette année suite au décès de Michel, voilà, qu'on est encore là, qu'on continue, on va dire, sur ce chemin. Donc je peux peut-être faire un petit déroulé, comme ça, ça me permet d'expliciter... on va dire ce qui va s'y passer. Donc elle commence à 9h, hein, l'ouverture du site est à 9h. La fête, en fait, il n'y a pas de réservation à y faire, on y vient juste. Il y a un tarif d'entrée qui est à 13 €, ce qui nous permet vraiment de faire venir tous les intervenants, de soutenir, on va dire, les différents artistes, en fait, qui vont être présents. L'association des Amanins qui porte ça, en fait, se fait pas d'argent sur cette fête. Voilà, on essaie juste d'être à l'équilibre. Voilà, nous, c'est vraiment un moment pour se dire, bon, brassons. Donc voilà, ce soir à 9h. En fait, à 10h30, il y a une table ronde sur le thème des semences paysannes nourrissent le monde. Donc ça va être une superbe table ronde, en fait, qui est menée par Terre et Humanisme, donc l'association. Superbe dans le sens où on a la chance, en fait, d'accueillir des 5 intervenants, dont plusieurs viennent, en fait, de pays... autre que la France. Donc il y a une personne qui vient d'Auroville, donc qui est d'Epika Kundaji, qui vient d'Inde. Donc où il y a un énorme travail qui est mené auprès de la paysannerie pour justement préserver ces semences paysannes. Voilà, il y a Goran Diaye, en fait, qui est une personne qui vient du Sénégal, qui a une ferme école agroécologique, voilà, qui travaille aussi là-dessus. Et puis après, il y a deux réseaux, qui est le réseau, en fait, des semences paysannes et le réseau des femmes semencières, qui vont venir, en fait, à travers Claire Chanu, Jacques Capla, témoigner, on va dire, de l'importance, en fait, des semences paysannes, surtout en ce moment où on essaie de breveter chaque semence pour en faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de breveter quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine ou du bien collectif, quoi. Quelque chose qui nous appartient à tous et qui ne peut pas appartenir à quelqu'un. Voilà, donc du coup, c'est vrai que cet enjeu, il est assez magnifique, parce que quand on parle de semences, on parle de la graine, en fait, qui fait pousser tous ces aliments qui nous nourrissent, quoi. Et sans eux, on ne pourrait pas échanger, sans eux, on ne pourrait pas être, quoi, en gros. Et donc, du coup, ils vont venir vraiment témoigner sur leurs expériences à eux et puis sur le sens que ça veut dire de dire les semences paysannes nourrissent le monde. Quelle utopie c'est, celle-ci, mais en même temps qu'il y ait des gens au courant, quoi. Voilà, donc ça, c'est plutôt le matin. Après, l'après-midi, donc on peut déjeuner, on peut manger aux Amanins. Il y a de la restauration sur place, hein, donc restauration qui va être en grande partie issue de la production des Amanins. C'est-à-dire qu'on a prévu en amont, donc il y a des chouettes choses, des acras, des saucisses faites aux Amanins, des salades. Hein, voilà, on va essayer vraiment de diversifier des glaces faites aux Amanins avec le lait des Amanins, les fraises des Amanins. Enfin, voilà. On est vraiment, nous, dans un moment festif où aussi on veut valoriser tout ce qu'on fait, quoi. Hein. Voilà, donc l'après-midi, c'est une conférence participative, dans la mesure du possible, donc sur le thème de l'utopie en chemin. Quand on parle de terre et humanisme, en fait, hein, on parle du nom de cette fête, on parle des deux ancrages, on va dire, de Pierre Rabhi. Hein. Pierre, il parle énormément du besoin, en fait, qu'on a de lien à la terre, hein, de lien à l'humus. L'humus, Et humanisme, en fait, ont la même racine, qui est humos, en fait, qui est la terre. Voilà, donc parler de notre lien à la terre et parler de l'humanisme, qui est notre lien à nous en tant qu'individus, c'est-à-dire comment on grandit en conscience pour faire que cette planète, en fait, puisse continuer à nous accueillir et que nous, on puisse être dans une forme, en fait, de bien-être. Et du coup, l'utopie en chemin, c'était vraiment dans ce sens-là, c'est de se dire qu'il y a un mouvement qui était sans doute utopique il y a quelques années et qui, là, commence à prendre racine. Voilà, commence à s'ancrer, commence à devenir réel. Donc, en conférencier, il va y avoir donc Pierre Rabhi, donc qui est vraiment l'un des cofondateurs des Amalins. Donc, cette fête, elle est aussi dédiée, on va dire, à sa pensée, pas à l'individu, mais à sa pensée. Et donc, il va être accompagné par quatre personnes, donc qui sont Cynthia Fleury, qui est une philosophe, Tan Nguyen, qui est une pollinisatrice, mais en fait, qui est une personne qui a soutenu et porté beaucoup de projets écologistes de très grande envergure et très politisés. C'est une personne très fascinante. Mathieu Baudin, qui est un prospectiviste, qui fait partie de l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc, il y a une personne qui est très axée sur quel avenir, en fait, hein, pour nous, société. Et Cyril Dion, qui est le directeur et fondateur, en fait, du mouvement des Colibris. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quatre personnalités-là sont quatre personnalités plutôt jeunes, on va dire, dans l'univers, on va dire, des conférenciers, ou en tout cas des hommes de parole, des passeurs publics, quoi. C'est des personnes qui sont dans la trentaine et la quarantaine. Donc, du coup, c'est un peu une nouvelle génération qui arrive et qui a énormément de choses à dire. Il y a des choses à dire dans une autre lecture aussi de notre société, puisqu'en fait, n'ont pas vécu de la même manière. Donc, du coup, en fait, c'était intéressant parce qu'il y a Pierre qui accueille ces personnes-là, avec qui il va être en dialogue. Donc, c'est aussi renouveler, on va dire, un dialogue et une pensée, en fait, qui est celle de Pierre à travers l'approche de personnes plus jeunes. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que souvent, en fait, les personnes référentes qu'on a dans nos conférences, c'est des personnes plus âgées, hein, parce qu'il y a une sagesse et puis il y a une expérience de vie. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a toute une génération qui arrive et qu'il y a des choses assez incroyables à porter. Hein. Enfin, on le voit au Brésil, ce qui se passe actuellement. Je fais une grosse digression, mais je trouve intéressant. Ce qui se passe actuellement au Brésil, dans les manifestations qu'il y a, en fait, ça a été porté par deux jeunes qui ont la vingtaine, qui ont lancé ça. On voit les révolutions arabes, ça a été des jeunes aussi qui ont lancé ça. Donc, on sent qu'il y a de la bouteille, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça va venir échanger là-dessus sur l'utopie en chemin. Voilà. Et puis après, donc à la fin de cette conférence, qui va être assez longue, mais où il y aura des pauses, où ça va beaucoup échanger, et ben, en fait, on va avoir un concert, donc, de Clémentine Célarier Band. Donc, c'est Clémentine Célarier, l'actrice, qui a monté un groupe qui est vraiment super, qui est Jazz Manouche. Donc, voilà, qui va venir faire son show pendant un concert. Et puis, il va y avoir Farah Noumé, qui est un groupe de musique tzigane locale. Et puis, tout ça, ça va se terminer par un super bal, le bal AGG. Voilà, donc, de manière très festive. Il y a aussi des petites surprises clownesques sur toute la journée. Donc, voilà, ça va être un grand mélange. Il y aura des moments de partage, des moments de projection d'images aussi sur ce qui se passe sur la campagne lancée par le mouvement des Colibris, qui s'appelle la Révolution des Colibris. Donc, qui est vraiment un mouvement citoyen. Voilà, donc, c'est toute une programmation très ouverte, très festive. Voilà, et puis on espère vraiment avoir beaucoup de monde.
Bah, super. Je ne peux qu'encourager tous les gens qui pourraient écouter cette interview de se rendre donc le 29 juin du côté de La Roche-sur-Grane. Je suppose que c'est Fléché, qu'on vous trouve relativement facilement. Oui. Donc cette ferme des Amalins, la fête de la terre et de l'humanisme à partir de 9h du matin jusqu'à tard le soir.
Si jusqu'à tard le soir, ouais, tard dans la nuit. Et peut-être juste une précision, en fait, on peut trouver donc des informations sur le site des Amalins, www.lesamalins.com. Voilà, donc il y a l'affiche qui a téléchargé, et puis bon, on retrouve aussi dans les magasins bio, on a mis pas mal d'affiches et de flyers, quoi.
Très bien, bien Olivier, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions sur et cette structure et cette fête, et je te souhaite une bonne continuation et une bonne fête de la Terre et de l'humanisme.
Ouais, ben écoute, moi j'invite tous les auditeurs de RDIWA à venir nous rejoindre, toutes les personnes du DIWA, et puis je remercie RDIWA de nous avoir proposer ce temps, en fait, d'échange pour pouvoir faire la promotion de cet événement. Merci à toi.
Tout le plaisir est pour nous. Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.